Et donc, bonjour à chacune et à chacun. C'est un vrai privilège et une joie de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin, une fois de plus. Et j'ai un problème à la voix. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Okay, je vous rassure, ce n'est pas parce que j'ai crié hier pour la victoire du PSG. Et je félicite et bravo aux supporters et au club. Mais j'ai un... On parcourt en ce moment, à l'église Le Refuge, une série de prédications sur les rencontres de Jésus. Jésus qui, lors de son ministère terrestre, a rencontré des gens et on essaie de voir ce qui s'est passé lors de chacune de ces rencontres. On a déjà parcouru plusieurs rencontres ici et ce matin, nous allons faire une rencontre de plus, un peu surprenante celle-ci, on aura le temps de le voir. Mais avant de commencer, je vais appeler Jésus et les 10 lépreux, c'est dans Luc 17, des versets 11 à 19. Si vous avez des Bibles, c'est bien d'ouvrir à cette page-là. Et avant de lire, j'aimerais commencer par une question personnelle pour chacun. Tout à l'heure, Arnaud a dit que si on pensait à Dieu, on pouvait qualifier Dieu de fidèle. Dieu est fidèle. Et maintenant, si vous pensez à vous-même, qu'est-ce que les gens pourraient dire de vous? Je veux dire, si votre entourage devait dire un adjectif pour vous qualifier, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Est-ce qu'ils diraient que vous êtes quelqu'un de généreux ou plutôt radin? Est-ce qu'ils diraient que vous êtes orgueilleux ou plutôt humble? Est-ce qu'il dirait que vous êtes quelqu'un d'ingrat ou alors que vous êtes reconnaissant? On est le 8 septembre 1860 aux États-Unis. Edward Spencer Wilson est un jeune étudiant de théologie à la Northwestern University. J'ai bien répété pour bien dire cette partie-ci. Et une nuit, il entend des cris d'hommes et de femmes qui ont fait naufrage au bord de leur navire, sur le lac du Michigan. Ces personnes sont dispersées sur la surface de l'eau et sans réfléchir, ils s'y jettent. Il va dans la nuit noire et malgré la lutte contre les vagues, malgré les crampes dans ses muscles, il réussit à ramener plusieurs naufragés sur le bord. Il retourne encore dans l'eau malgré les débris. En fait, c'est deux navires qui étaient entrés en collision. Et toute la charge des navires s'est versée dans l'eau. Et donc, son corps, pendant qu'il va chercher des naufragés pour les ramener sur le bord, son corps est découpé par les débris, des navires. Et à la fin, 98 victimes vont survivre. Edward Spencer en aura sauvé 17 à lui tout seul. Et donc, c'est un acte de bravoure qui va marquer le début d'une nouvelle vie pour ces personnes-là. Mais ça marque aussi la fin d'un rêve pour cet étudiant. Son corps n'est jamais vraiment parvenu à s'en remettre du mauvais traitement subi ce jour-là. Spencer va être contraint d'abandonner ses études de théologie et son rêve de devenir pasteur. Il va passer le reste de sa vie sur un fauteuil roulant. Plusieurs années après, lors d'un reportage, on lui demande ce qui l'a marqué le plus ce soir de sauvetage. Et il va répondre seulement ceci, c'est que des 17 personnes que j'ai sauvées, aucune ne m'a jamais remercié. Quel sentiment vous vient à l'esprit à l'écoute d'une histoire comme celle-ci? Que pensez-vous de ces personnes? Et d'ailleurs, on peut se demander, et même s'ils étaient revenus lui dire merci, Edward Spencer, qu'est-ce qu'il aurait pu leur donner en plus du haut de son fauteuil roulant? Et de toutes les façons, ils ne sont pas revenus. Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur faire si ce n'était que regretter leur ingratitude? Je propose de lire une histoire semblable dans Luc 17, des versets 11 à 19. On va voir que ce n'est pas l'histoire d'Edward Spencer et des 17 naufragés, mais c'est l'histoire de Jésus et de 17 lépreux. Mais on verra que c'est une histoire qui déborde et qui vient nous retrouver chacun de nous dans nos vies, dans nos quotidiens, dans ce que nous sommes. Luc 17, versets 11 à 19. Si vous avez les Bibles, c'est bien de les ouvrir et de les garder bien à ce passage-là. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils ?» Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est la parole de Dieu. Je t'invite à prier de nouveau. Seigneur, nous nous mettons devant ta parole et prions que par ton Saint-Esprit, tu ouvres nos cœurs et que tu déposes ce que tu as prévu pour nous, que tu nous bouscules dans nos certitudes et Seigneur, que tu transformes nos cœurs et nos vies à la gloire de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Alors, 3 points pour voir ce texte-ci. Excusez-moi. Premièrement, 10 personnes crient à Jésus. C'est dans les versets 11 à 13. Ensuite, 10 personnes reçoivent de Jésus. C'est au verset 14 qu'on voit ça. Et dans les versets 15 à 19, un seul revient vers Jésus. Et donc, premier point, les 10 qui crient à Jésus. J'ai dit précédemment que c'était l'histoire de Jésus et des 10 lépreux, mais on va voir qu'au final, c'est l'histoire de Jésus et de chacun de nous. Pour l'instant, voyons un peu ce qui se passe. Donc, Jésus passe dans un village entre la Galilée et la Samarie. Et Luc fait une sorte d'arrêt sur image. Et il zoome sur une scène un peu étrange. Il y a 10 lépreux qui se tiennent à distance et qui crient à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Pardon. Et donc, si ces lépreux crient, « Jésus, Maître, aie pitié de nous », c'est vraisemblablement qu'ils ont déjà entendu parler de Jésus. La rumeur a couru jusqu'à eux. Et arrêtons-nous un peu sur la situation de ces gars. Qui sont-ils? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la lèpre. C'est une maladie qui attaque les nerfs, ce qui a pour conséquence de rendre insensible à la douleur, de telle sorte que si vous vous blessez, vous ne ressentez rien. Et donc peut-être que vous ne soignez pas les plaies. Les lésions superficielles deviennent des blessures profondes et jusqu'à la perte totale des membres. La maladie engendre même souvent une paralysie qui empêche le clignement des yeux. Vous voyez, les paupières, voilà. Les personnes qui sont souvent lépreuses ne peuvent pas, voilà, des fois les mouches viennent jusque dans leurs yeux parce qu'elles ne peuvent même pas fermer les yeux. Cette paralysie atteint aussi les doigts, les orteils qui finissent soit par se tordre, soit même aussi par se couper. Et donc c'est une maladie qui détruit à petit feu chaque aspect de la vie d'une personne. Chacun de ces 10 lépreux a donc connu plus ou moins la même expérience. Un jour, on a constaté des taches blanches sur leur corps qui résistent à tout traitement jusqu'à ce que le verdict tombe. C'est la lèpre. Et quand on dit « c'est la lèpre », quand le sacrificateur dit « c'est la lèpre », tous les vêtements et les outils souillés par la maladie sont brûlés sur la place publique. Les lépreux devaient désormais porter des habits déchirés en symbole, en signe de deuil et de honte. Ils devaient avoir des cheveux ébouriffés en désordre. Tout contact est rompu avec les amis les parents, les enfants, les époux. Ils sont conduits à la frontière du village. C'est ce qui explique que ces 10 sont trouvés où ? Entre la Samarie et la Galilée. Ils sont ni dans la Samarie, ni dans la Galilée, mais ils sont entre les deux. Parce que le lépreux est conduit en dehors du village, exclu de la société. À tel point que lorsqu'ils entendent quelqu'un arriver en leur direction, ils sont tenus, obligés d'annoncer leur présence en criant « impur, impur, impur ». Vous voyez le niveau d'humiliation que cette maladie impose. Et c'est la condition pitoyable de chacune de ces personnes. À eux 10, ces personnes représentent toutes les classes de la société. Les ravages de la lèpre étaient les mêmes, qu'on soit riche ou pauvre, diplômé ou non éduqué. Les jeunes et les vieux étaient lépreux. Les princes et les paysans étaient lépreux. Leur vie était misérable et leur avenir était sombre, sans espoir. En réalité, lorsqu'on pense à ces gens, la bonne expression pour les qualifier, c'est qu'ils étaient des morts vivants. Ils sont juifs et samaritains. Ils savent que la lèpre ne se guérit pas. Mais de par leur éducation, puisque les juifs et les samaritains, ils avaient une éducation religieuse, ils savent qu'un seul cas de lèpre naturelle a été guéri. C'est lorsque Dieu a guéri le général Naaman. Et ils savent que c'est Dieu qui avait guéri par son prophète, ce général lépreux. Ils accourent donc vers Jésus, ils se tiennent à distance et le supplient de leur venir au secours. Souvenez-vous que lorsque quelqu'un approchait, il devait dire quoi ? Impur, impur, impur. Mais à l'approche de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent ? Maître Jésus, aie pitié de nous. Deuxième point, ils reçoivent, les 10 vont recevoir de Jésus. Regardez bien le verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pourquoi Jésus leur dit d'aller se montrer au prêtre? Je veux dire, pourquoi il ne les guérit pas tout de suite, comme il l'a fait avec les autres? Avec Jérémie, on parcourt l'évangile de Marc, et on est marqué à chaque fois, chaque fois que Jésus voit des lépreux, il ne les guérit même pas à distance, il les touche, il vient au contact. Et les gens sont guéris instantanément, sur place. Mais là, Jésus ne fait pas cela. Est-ce que Jésus, il leur dit d'aller se montrer au prêtre? Est-ce que Jésus est en train de se débarrasser d'eux? Pas du tout. En fait, il teste deux choses chez ces lépreux. Première chose, il teste leur foi. Et la deuxième chose, il teste leur reconnaissance. Il teste leur foi parce qu'il leur demande de partir. Ils ne sont même pas encore guéris, mais il leur dit de partir se montrer au prêtre. Rendez-vous compte, frères et sœurs, leur maladie est sans espoir. La seule lueur d'espoir, c'est Jésus et il est devant eux. Et là, Jésus est en train de leur dire, partez. Alors, plusieurs questions. Et si on part et on n'est pas guéri, on n'a plus d'espoir. Si on part, on n'est pas guéri et on revient et que tu n'es plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on part et qu'on n'est pas guéri et qu'on est lapidé dans le village? Jésus teste leur foi. Est-ce qu'ils ont confiance dans la parole de Jésus? Et c'est une grande question pour nous aussi, à chaque fois. Est-ce que la parole de Jésus est suffisante pour nous rassurer? Et la parole de Jésus aujourd'hui, c'est la Bible. Pour nous rassurer, pour nous encourager, pour nous reprendre. Est-ce qu'ils ont confiance dans la parole de Jésus? Absolument, c'est ce qu'on voit. Ils vont partir. Ils vont vraiment partir. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Jésus teste leur reconnaissance. S'ils ont la foi, ils savent que Dieu existe, qu'il est capable de les guérir. Est-ce qu'ils sont reconnaissants? La suite du texte va montrer que non, ils ne le sont pas. Et c'est le troisième point. Un seul revient vers Jésus, dans les versets 15 à 19. Sur le chemin, ayant tous recouvert la guérison, de multiples options vont s'ouvrir à chacun d'eux. Ils peuvent désormais retourner à leur ancienne vie, embrasser leurs femmes et leurs enfants, trouver un travail, progresser dans la société. Ils pouvaient désormais rentrer chez eux, boire une bonne tasse de thé, manger un bon repas chaud. Et on, je vous laisse imaginer toutes les possibilités, tout ce qu'ils auraient pu faire. 9 personnes parmi eux vont effectivement retourner à leur ancienne vie. Mais il y en a un qui ne voit pas les choses de cette façon-là. Il semble comprendre ce qui est en train de se passer ici. La voix de celui qui lui a dit, qui l'a guéri, qui lui a dit « va te montrer au prêtre » semble continuer de résonner dans son esprit. Il sait que Dieu seul a guéri un cas de lèpre dans la Bible. Et donc, s'il est guéri de la lèpre, c'est sûrement que Dieu était là. C'est sûrement que c'est Dieu qui a parlé. Et il sait que quand, là où Dieu parle, il y a la grâce de Dieu. Il a sûrement vu la grâce dans le regard de Jésus. Vous vous souvenez, il était censé crier quoi ? Impur, impur, impur. Mais quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Jésus, maître, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Et est-ce que Jésus les a repris en disant, ah non, 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 vous devez dire impur, impur, impur? Absolument pas. Il a sûrement été compatissant avec eux. Et ces gens-là ont été touchés par la grâce qu'ils ont vue. Enfin, ce gars-ci, en tout cas, a été sûrement touché par la grâce qu'il a vue dans le regard de Jésus. Verset 15, il retourne donc. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il retourne vers Jésus parce qu'il a besoin d'autre chose. Il veut Dieu cette fois-ci. Il sait que Dieu a promis qu'il viendrait et qu'il guérirait non seulement le corps physique, mais aussi le cœur. Il veut donc plus que ce que cette vie qui s'ouvre à lui peut lui offrir. Comment on sait ce qu'il veut ? Parce qu'on voit, on sait ce qu'il veut, parce que lorsqu'on regarde ce que Jésus lui donne. Regardez le verset 19, ce que Jésus lui donne. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus lui donne quoi ? Le salut. Un des drames de l'Occident, frères et sœurs, un des drames pour beaucoup parmi nous ce matin, c'est la difficulté d'être convaincu que malgré tout le confort qu'on peut avoir, il nous manque une chose, la chose essentielle, le salut. Ces 9 aussi avaient désormais tout, sauf une chose. Et cette chose, c'est le Samaritain qui est revenu la chercher et qui l'a eu en revenant à Jésus. Au verset 19, lorsque Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé », il n'est plus question de la lèpre. Ce n'est pas de la lèpre, ce n'est pas de la lèpre qu'il est sauvé, parce que les 9 aussi étaient sauvés de la lèpre. Quand il dit « Va, ta foi t'a sauvé », il est en train de lui dire que désormais, il a le salut éternel. Il a reçu le don le plus excellent. Il a le pardon de ses péchés. Il a la paix avec Dieu désormais. Maintenant, son cœur est libre. Ce n'est plus que son corps qui est guéri. Son cœur aussi est désormais guéri. Et pour l'éternité, comme on l'a vu dans la fidélité de Dieu tout à l'heure. On peut être fixé sur la grande reconnaissance et les cris de remerciement de ce lépreux, de ce samaritain, et au point d'oublier le verset, enfin d'oublier les 9 autres. Qu'en est-il d'eux ? Que pensez-vous de ces 9 frères et sœurs ? Qu'avez-vous pensé des 17 et Edward Spencer ? Que pensez-vous de ces 9 personnes ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Qu'est-ce que Jésus leur dit ? Jésus ne leur parle peut-être pas directement comme il parle à ce samaritain. Il leur parle peut-être pas directement, mais il y a un autre texte qui résonne un petit peu dans l'attitude de ces 9 personnes-là. Regardez, si vous avez des Bibles, regardez avec moi Romains chapitre 1. Nous allons lire les versets 20 à 22. Romains chapitre 1, des versets 20 à 22. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. et n'ont pas été reconnaissants. Ils ne l'ont pas glorifié et ils n'ont pas été reconnaissants. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Avez-vous vu comment Paul construit son argumentaire? Il ne dit pas « les hommes sont devenus mauvais et au passage, ils ont oublié de remercier Dieu ». Absolument pas. Il dit exactement l'inverse. Regarde, écoutez encore le verset 21. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » C'est à partir de là que leur cœur s'est obscurci. À partir de quoi? Ils n'ont pas adoré Dieu et ils n'ont pas été reconnaissants. À partir de là, leur cœur s'est obscurci et c'est à partir de là que tout le reste a suivi. Et si vous voulez voir le reste, c'est assez terrible le reste, la description que Paul va faire à la suite. Regardez les versets 23 et 26, plus tard vous verrez que c'est vraiment terrible. L'ingratitude n'est pas juste un petit défaut de caractère qu'on pourrait poser à côté des vrais péchés. L'ingratitude, c'est la première marche de l'escalier qui descend. C'est la porte par laquelle on sort de la lumière. Et là, mes amis, souvenez-vous de ce que nous avons dit de la lèpre. Qu'est-ce qu'elle fait en premier, la lèpre? Elle ne défigure pas tout de suite. Elle commence par anesthésier. Elle endort la douleur. Elle endort la douleur. On ne sent plus rien. Et c'est précisément parce qu'on ne sent plus rien qu'on se blesse, qu'on s'abîme, qu'on se détruit, sans même s'en apercevoir. Et ça devient normal. Se blesser, s'abîmer devient normal. Ça fait penser à quoi? Au péché. L'ingratitude fait exactement la même chose au cœur. Elle endort. Un cœur qui cesse de rendre grâce à Dieu ne devient pas méchant en un jour. Il devient d'abord insensible. Et dès qu'il est insensible, il sombre dans le péché. Et un cœur insensible à la bonté de Dieu, c'est un cœur qui lentement va se défigurer. Voilà ce que Jésus expose quand il demande « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils ?» Il ne pointe pas juste du doigt 9 hommes mal élevés qu'il a rencontrés il y a 2000 ans. Et il s'adresse à chacun de nous aussi ici ce matin. Il pointe ton cœur endormi. Il pointe le mien aussi sûrement. C'est là que mène le cœur endormi. L'anesthésie n'était que le début. Souvenez-vous, la lèpre n'arrête pas son travail une fois qu'elle a endormi la douleur. Elle continue. Ce qu'elle a rendu insensible, elle finit par le défigurer. Et le péché ne fait rien d'autre. La lèpre défigurait le corps de ces 10 hommes. Je vous assure que le péché, lui, défigure lui aussi tout ce qu'il touche. C'est le péché qui défigure les mariages. Quand deux époux deviennent impatients, rancuniers l'un vis-à-vis de l'autre. C'est le péché qui défigure les familles. Lorsque les différents viennent séparer les pères d'avec les fils, les mères d'avec les filles. Lorsque les frères et sœurs parlent la même langue, mais n'arrivent plus à se comprendre. C'est encore le péché qui défigure même les amitiés les plus solides. C'est le péché qui détruit la stabilité des jeunes et même des moins jeunes lorsqu'ils les entraînent et les maintient dans toutes sortes de dépendances, pornographie, alcool, sexe, drogue, image excessive de soi. Mes amis, le péché ne respecte rien. Tout ce qu'il touche, il défigure. Si ces 10 lépreux étaient ici parmi nous, il n'aurait pas besoin de faire un long discours comme je suis en train de faire là. Il relèverait juste leurs manches et découvrirait leur visage et on verrait, sans qu'ils ne parlent, comment le péché, la lèpre les a atteints. Eh bien, le péché fait exactement la même chose dans ta vie. Il fait la même chose que la lèpre faisait sur la peau de ces gens. Si tu as du mal à croire que le péché te défigure, regarde simplement autour de toi.
Regarde comment ton péché fait du mal à ceux que tu aimes. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Est-ce que je peux me permettre de te demander quel genre de personne tu es? Jésus est en train de dire pour nous, tous les hommes de la terre n'ont-ils pas bénéficié de ma grâce et de ma bonté? Dans Matthieu chapitre 5, dans le verset 45, à partir 45, il me semble, Jésus dit que Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire que tout le monde entier a reçu de la bonté de Dieu. Et donc, il n'y a que 2 catégories de personnes, les gens reconnaissants et les ingrats. Quel genre de personne es-tu? Parce que nous avons tous bénéficié de la bonté de Dieu. Quand tu arrives à manger chez toi, c'est la bénédiction de Dieu. Comment lui dis-tu merci? Est-ce que c'est cette courte prière que tu fais pour soulager ta conscience? Ces mêmes mots que tu répètes chaque jour quand tu es à table pour soulager ta conscience? Ou alors, tu t'arrêtes vraiment et ton cœur exulte de reconnaissance à Dieu. Tu as une famille que tu aimes et qui t'aime, c'est aussi la bonté de Dieu. Tu es là ce matin à entendre la parole de Dieu, c'est encore la bonté de Dieu. En fait, rien et absolument rien de ce qu'on a n'est mérité. C'est la grâce et la bonté de Dieu. Et quand je parle de toutes ces bénédictions de Dieu, frères et sœurs, je suis conscient que l'année a peut-être été et peut-être que la vie en ce moment est peut-être difficile pour certaines personnes. Pas de travail, décès dans les familles, pas d'enfants, galère financière, et tu te demandes de quoi tu pourrais être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Frères et sœurs, juste l'air qui passe dans tes narines, c'est encore la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, dans Actes 17, dit que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, tout ce qui est vital à ce qu'on puisse vivre, est le don de Dieu. Et pour tout ça, quelle reconnaissance as-tu montré à Dieu? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Est-ce que je peux me permettre de te demander de quel côté tu es? Mais c'est quoi être reconnaissant? Peut-être que tu sais dire merci et que souvent dans tes prières, tu le dis même. Peut-être que tu fréquentes même une église aussi et que tu fais beaucoup de choses spirituelles. Mais il me semble que la reconnaissance dont Jésus, dont il est question dans notre texte ici, c'est tout autre chose. Revenez avec moi dans Luc 17. Et regardez le verset 16. On dit, « Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. » C'était un Samaritain. Regardez aussi le verset 18. « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» La réponse à la bonté de Jésus semble être toujours un mixte indissociable. Rendre gloire à Dieu et remercier Dieu. La reconnaissance et l'adoration. Toute l'idée de la reconnaissance et de l'adoration se trouve dans la démarche de ce lépreux. Il revient, il glorifie Dieu à haute voix, il tombe aux pieds de Jésus, il rend grâce. La reconnaissance n'est pas juste un sentiment ou une série de gestes. Ces gestes, mais c'est une série de gestes aussi. Et ces gestes, je vous propose 7 façons d'être reconnaissant. Et peut-être, pourquoi pas, s'engager à vivre ça dans la semaine qui vient. Et si vous avez fait, eh bien, le faire encore la semaine qui suit. La première chose, commence avec Jésus. Voilà, commence avec Jésus. Les 9 ont couru vers leur nouvelle vie. Mais le Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il fait demi-tour. C'est sûr qu'il ira vers sa nouvelle vie. Il retournera vers la nouvelle vie qui s'ouvre à lui. Mais avant d'y aller, il veut commencer avec Jésus, pour vivre avec Jésus. Vous voyez, il retourne d'abord à Jésus. Je vous propose de faire ça dans la vie de tous les jours, le matin, avant que la journée ne t'avale, avant que le téléphone ne commence à t'imposer le rythme, avant d'ouvrir la to-do list, avant même le café matinal. Pourquoi ne pas revenir comme ce Samaritain? Revenir à Jésus pour commencer avec Jésus et vivre la journée avec Jésus dans la lecture de sa parole et dans la prière. La deuxième chose, nomme et ne ressens pas vaguement les choses. Nomme les choses. Il vient, il glorifie Dieu à haute voix, c'est ce qui est dit. Et quand il vient dire merci, on sait exactement pourquoi il dit merci. Il est sûrement très précis sur ce pourquoi il dit merci à Jésus. Et on peut faire pareil dans la semaine. J'ai un ami qui me disait que le soir, avant de s'endormir, il citait, il pensait à 5 choses au moins que Dieu a faites pour lui dans la journée. Et quand il remerciait Dieu, il pouvait dire, pas merci pour tout ce que tu fais, mais merci pour cette belle rencontre que j'ai eue avec telle personne. Merci pour cette discussion que j'ai eue avec cette personne. Merci parce que je vois comment ton évangile progresse dans la vie de mes enfants. Merci pour l'église qui grandit et qui progresse. Merci pour telle personne que j'ai rencontrée et à qui j'ai pu parler de la bonne nouvelle. Vous voyez, nommer les choses et être précis dans l'action de grâce. Troisième chose, adapter son vocabulaire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être un religieux qui cite Dieu partout. Mais une chose qu'on pourrait faire, c'est arrêter de dire « j'ai eu la chance d'avoir ce travail », mais plutôt dire « Dieu m'a donné ce travail ». Mettre le nom de Jésus sur tout ce qu'on reçoit pour reconnaître que Dieu est à l'œuvre dans tout ce que nous vivons. Être capable de discerner l'action de Dieu dans tout ce qui se passe dans notre vie. La différence entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien, mais sur qui le soleil se lève, le soleil de Dieu se lève sur les deux, la différence c'est quoi? C'est que le chrétien reconnaît que ce soleil est levé par Dieu. Et celui qui est à l'extérieur dira, c'est normal. Ou alors dira, je le mérite bien. J'ai une amie avec qui je suis allé manger une fois. Alors, c'était à la fac et j'étais un peu en galère, enfin, un peu beaucoup en galère. Et elle m'avait donné un ticket du resto universitaire. Et donc, quand on va manger, on s'installe et on commence à... On est en train de parler et à un moment donné, je lui dis, donne-moi 30 secondes parce qu'il faut que je remercie Dieu. Elle était vexée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu remercies Dieu? Je dis, bah, parce qu'il me donne le repas. Elle dit, bah non, remercie-moi, c'est moi qui te donne le repas. J'ai dit, bah, alors, ben oui, merci Belinda, mais oui, je pense que Dieu me donne le repas par toi. Elle dit, bah non, il n'a rien fait, c'est moi qui te donne le repas. Ah, vous voyez, la différence avec le chrétien, c'est qu'il reconnaît que dans tout ce qu'il a, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui a l'œuvre. Quatrième chose, dis-le et dis-le aux autres. J'ai parlé de cette petite prière qu'on peut souvent dire pour soulager notre conscience. Mais en fait, à table, devant la famille, on peut remercier Dieu aujourd'hui, avec des mots différents d'hier, de ceux d'hier. C'est-à-dire le cœur qui parle vraiment à Dieu. Et on peut aussi dire à quelqu'un. Je pense que très souvent, quand quelqu'un nous fait du bien, on arrive à le dire aux autres facilement. Et donc, on peut faire ça aussi. Dire aux gens, voici ce que Dieu a fait pour moi. C'est aussi une marque de reconnaissance. La cinquième chose, tomber à ses pieds. C'est un geste qui est fort et c'est celui qu'on peut faire. Il se jette à terre et c'est sa façon d'adorer Jésus. Ce n'est pas juste de la politesse. Et donc on peut faire ça aussi et considérer que venir au culte le dimanche matin, ce n'est pas juste une routine. C'est un retour à Jésus. Vous voyez comment ce Samaritain retourne à Jésus. Venir au culte du dimanche peut être aussi considéré comme étant un retour à Jésus. Mais aussi, vous voyez, tomber à genoux, c'est une position que j'aime bien. Alors, j'ai commencé à montrer ça à Dan Manuel. Il avait trouvé ça un peu bizarre au début. Mais je pense que quand on se met à genoux physiquement devant Dieu, le cœur apprend sa vraie place. S'incline devant son Seigneur. Adore ce Seigneur-là. Se soumet à ce Seigneur. Sixième chose, soit être reconnaissant dans l'épreuve et pas seulement dans les bonnes choses. Vous avez vu que dans 1 Thessaloniciens 5, je vais le lire tout à l'heure, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, l'apôtre Paul dit, il ne dit pas « rendez grâce pour toutes choses », mais il dit rendez grâce en toutes choses. Quand tu ne peux pas remercier Dieu devant une circonstance de deuil, de chômage ou de maladie, remercie-le pour lui-même, pour le souffle, pour sa présence, pour la croix, ces choses qui ne dépendent pas de la météo. Vous voyez, la reconnaissance qui est bâtie sur la chance va s'effondrer lorsque la chance va tourner. Mais celle qui est bâtie sur la croix va tenir debout, même dans la nuit. Septième chose, rends ce que tu as reçu et prends-en soin. La reconnaissance qui ne coûte rien, c'est une reconnaissance qui n'est pas encore arrivée à bout. Cette semaine, pourquoi ne pas réfléchir à ce que vous avez reçu? Si vous avez reçu et que spirituellement vous pensez avoir reçu de Dieu, pourquoi ne pas partager ça avec quelqu'un? Aider quelqu'un qui aurait besoin à progresser spirituellement. Si financièrement vous êtes béni, pourquoi ne pas identifier cette personne-là qui est peut-être en galère et partager avec cette personne cette chose que vous avez reçue? Et c'est Grace qui m'avait dit une fois que, quand on discutait de ce texte, elle m'a dit que la reconnaissance, être reconnaissant, c'est aussi prendre soin de ce qu'on a reçu. Et j'avais trouvé ça très approprié. Si vous avez reçu la foi, le salut, comme ce Samaritain, prenez soin de cette foi-là. Gardez-la précieusement. Nourrissez-la. Faites-la grandir. Encore et encore et encore. Comment? Dans la lecture de la parole, dans la prière et dans l'église. Je conclue maintenant. Je ne sais pas si vous avez fait attention au premier verset. On lit au verset 11 que Jésus était en chemin vers Jérusalem. Ses lépreux ont crié « Maître, aie pitié de nous !» Et j'imagine ces pauvres gens qui disent, dans le « aie pitié de nous », ils sont en train de dire « Seigneur, regarde nos mains. En tout cas, regarde ce qui reste de nos mains. Regarde notre visage, ou plutôt ce qui reste de notre visage. Regarde où nous en sommes dans notre maladie. » Et c'est aussi ce que tu peux faire ce matin. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu le salut. Tu peux dire à Jésus, regarde mes mains, Seigneur, regarde dans quoi elles ont trempé. Je ne voudrais pas qu'on sache ce qu'elles ont fait, mais toi, Seigneur, tu le sais. Regarde, Seigneur, regarde ma figure, regarde mon cœur, regarde les mauvaises pensées que je cultive, regarde comment le péché m'a détruit à petit feu, regarde comment tout autour de moi se détruit de plus en plus, regarde comment je suis sur le chemin de la mort éternelle, incapable de me sauver par moi-même. Maître Jésus, aie pitié de moi, tu peux le dire ce matin. Jésus est venu, il n'était pas atteint de lèpre spirituelle comme nous, il était sans péché. Mais vous vous souvenez, on a dit que la lèpre déforme les hommes et les rend hideux à voir. Et c'est exactement dans cette condition qu'était Jésus lorsqu'il était sur la croix, méconnaissable. J'ai dit que la lèpre séparait les hommes et le Seigneur aussi a été séparé. Séparé de tous, Pierre l'a renié, Judas l'a trahi, Jean le suivait de loin, et à la croix il a été séparé de Dieu. Il a pris notre lèpre sur son corps. Dieu a détourné sa face de son propre fils. Pourquoi? Parce qu'il portait sur lui notre lèpre. Jésus nous donne l'opportunité à chacun de nous, de ne plus jamais être séparé de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est dire... Maître, Seigneur, aie pitié de moi. Le virus de notre péché l'a entraîné dans la mort. Et en même temps, il a lui-même enterré ce virus dans sa mort. La mort de Jésus donne à chacun de nous ici ce matin la raison fondamentale, ultime, suprême d'être reconnaissant à Dieu. Cette mort-là, c'est aussi le moyen, la puissance qui peut nous transformer, transformer nos cœurs pour que nous adorions le Seigneur et que nous soyons reconnaissants. Nous allons prendre la scène maintenant. Et c'est le moment où celui qui a